Éclive Histoire Romaine, livre 1, cinquième partie, Ancus Marcus, 641 à 616 avant Jésus-Christ. Avènement d'Ancus Marcus, déclaration de guerre et opération contre les Latins. Après la mort de Tullus, l'autorité revint selon l'usage aux mains des sénateurs. Ceux-ci nommèrent un interroi, les comices assemblés. Ancus Marcus fut élu roi par le peuple, le Sénat ratifia l'élection. Ce prince était petit-fils de Numa par sa fille. À peine commença-t-il à régner que, plein de la gloire de son aïeul, et considérant combien le règne précédent avait été malheureux, malgré tout son éclat, soit à cause de l'indifférence de Tullus pour les cérémonies religieuses, soit à cause des altérations qu'il leur avait fait subir, il regarda comme son premier devoir de les ramener à la pureté de leur institution et ordonna au grand prêtre d'en transcrire les préceptes sur des tablettes blanches, de se conformer au texte de Numa et de les exposer au regard du public. Ce début fit espérer aux citoyens avides de repos et aux états voisins que le nouveau roi imiterait les mœurs et le gouvernement de son aïeul. Aussi les Latins, qui s'étaient liés à Tullus par un traité, sortirent de leur inaction et reprirent courage. Ils firent des incursions sur les terres de Rome et répondirent avec arrogance aux députés qu'on leur envoya pour demander satisfaction, car ils s'étaient imaginé que l'indolent Ancus passerait sa vie dans les temples et au pied des autels. Mais Ancus unissait au caractère de Numa celui de Romulus. Et il sentait bien que si la paix avait été nécessaire à son aïeul pour civiliser une nation nouvelle de mœurs si farouches, il pourrait difficilement prétendre au même résultat sans essuyer d'injures. On commençait par tenter sa patience, on finirait par la mépriser. Ces circonstances réclamaient donc un Tullus plutôt qu'un Numa. Numa avait fondé des institutions religieuses pour les temps de paix. Ancus en créa pour les temps de guerre. Il voulut qu'un rite particulier fût consacré à la guerre pour les formes à observer tant dans la conduite que dans la déclaration des hostilités. Il emprunta aux équicoles, anciens peuples de l'Italie, beaucoup de leurs usages. Ce sont les mêmes qu'observent encore aujourd'hui les fessiaux dans leurs réclamations. Le fessial, arrivé sur les frontières du peuple agresseur, se couvre la tête d'un voile de laine et dit « Écoute, Jupiter, écoutez, habitants des frontières, et il nomme le peuple auquel elles appartiennent, écoute aussi, justice, je suis le héros du peuple romain. Je viens chargé par lui d'une mission juste et pieuse, qu'on ajoute foi à mes paroles. » Il expose ensuite ses griefs, puis attestant Jupiter, il continue « Si moi, le héros du peuple romain, j'outrage les lois de la justice et de la religion en demandant la restitution de ces hommes et de ces choses, ne permets pas que je puisse jamais revoir ma patrie. » Cette formule, il l'a dite en franchissant la frontière, il l'a dite au premier homme qu'il rencontre, il l'a dite en entrant dans la ville ennemie, il l'a dit encore à son arrivée sur la place publique, mais en faisant de légers changements, soit au rythme, soit au terme du serment. S'il n'obtient pas satisfaction après 33 jours, délai prescrit solennellement, il déclare ainsi la guerre. Écoute, Jupiter, et toi, Janus Quirinus, et vous tous, dieux du ciel, de la terre et de l'enfer, écoutez. Je vous prends à témoin de l'injustice de ce peuple, et il le nomme, et de son refus de restituer ce qui n'est point à lui. Au reste, les vieillards de ma patrie délibéreront sur les moyens de reconquérir nos droits. » Le héros revenait aussitôt à Rome pour qu'on en délibérât, et le roi communiquait immédiatement l'affaire au sénateur à peu près en ces termes. Les objets, griefs et procès que le perpatra du peuple romain des Quirites a redemandé, exposé, débattu auprès du perpatra et du peuple des anciens latins, et desquels il attendait la restitution, la réparation et la solution, n'ont été ni restitués, ni réparés, ni résolus. Dis-moi donc, demandait-il au premier à qui il s'adressait, ce que tu en penses. Celui-ci répondait alors, je pense que pour faire valoir nos droits, la guerre est juste et légitime. En conséquence, j'y donne mon plein et entier consentement. On interrogeait ainsi chacun à son tour, et si la majorité adoptait cet avis, la guerre était décidée. L'usage était alors que le fécial porta aux frontières du peuple ennemi un javelot ferré ou un pieu encornouillé et durci au feu. Là, en présence de 3 adultes au moins, il disait « Puisque les peuples des anciens latins ou les citoyens des anciens latins ont agi contre le peuple romain des Quirites et failli envers lui, le peuple romain des Quirites a ordonné la guerre contre les anciens latins. Le sénat du peuple romain des Quirites l'a proposé, décrété, arrêté. Et moi et le peuple romain, nous la déclarons aux anciens latins, peuples et citoyens, et je commence les hostilités. » En disant ces mots, il lançait son javelot sur le territoire ennemi. Telles furent alors les formalités auxquelles on eut recours dans les réclamations adressées aux Latins et dans la déclaration de guerre. Cette coutume a, depuis, été constamment observée. Ancus, après avoir laissé aux Flamines et au reste des prêtres le soin des sacrifices, marche à la tête d'une armée nouvellement enrôlée contre Politorium, ville des Latins, qu'il emporte d'assaut. À l'exemple des rois ses prédécesseurs, qui avaient agrandi l'État en conférant le droit de cité aux ennemis vaincus, il fit transférer à Rome tous les habitants. Et comme les anciens Romains avaient axé leur demeure autour du mont Palatin, les Sabins sur le Capitole et dans la citadelle, les Albins sur le mont Cilius, il assigna le mont Aventin au dernier venu. Là aussi trouvèrent place les citoyens de Tellaine et de Ficana, quand les Romains eurent conquis ces 2 villes. Bientôt, on fut obligé d'attaquer une seconde fois Politorium, dont les anciens Latins s'étaient ressaisis depuis qu'elle avait été abandonnée par ses habitants. Et on la rasa, de peur qu'elle ne servît encore de retraite aux ennemis de Rome. La guerre s'étant enfin concentrée devant Médulia, les chances du combat y furent quelque temps balancées et la victoire indécise, car la place était forte et bien pourvue, et la garnison nombreuse. De plus, l'armée latine, campée dans la plaine, en vint maintes fois aux prises avec les Romains, mais Ancus, appuyé de toutes ses troupes, fait un dernier effort, les Latins sont vaincus en bataille rangée. Possesseur d'un immense butin, Ancus revient à Rome, où il admet au rang de citoyen plusieurs milliers de Latins. Il les établit auprès du temple de Vénus Murcia, comme pour opérer la jonction entre les monts Palatin et Aventin. Le Janicule aussi est lié au corps de la ville, non par défaut de terrain, mais pour garantir cette position contre les surprises. On atteignit ce but non seulement par le moyen d'un mur prolongé jusqu'aux habitations, mais par un pont de bois, le premier qu'on éleva sur le Tibre, et qui rendit facile le passage d'une rive à l'autre. Le fossé des Quirites, très propre à interdire l'accès du côté de la plaine, est aussi l'œuvre d'Ancus. Depuis ce prodigieux accroissement de Rome, il était devenu plus difficile de reconnaître au milieu d'une si grande multitude les bons et les mauvais citoyens, et les crimes moins connus se multipliaient. Pour imprimer la terreur et arrêter les progrès de la perversité, Ancus fit construire au centre de la ville une prison qui dominait aussi le forum. Sous ce règne, le territoire de Rome et ses frontières s'accrurent autant que la ville elle-même. On prit aux Veiens la forêt Mésia, l'Empire fut reculé jusqu'à la mer, Ostie fondée à l'embouchure du Tibre, des salines établies autour de cette ville, et le temple de Jupiter Phérétrien agrandi en reconnaissance des derniers succès. L'arrivée à Rome de Lucumon, le futur Tarquin l'Ancien. Pendant le règne d'Ancus, un étranger, nommé Lucumon, homme actif et opulent, vint à Rome. Il y fut attiré principalement par l'ambition et l'espérance d'y obtenir les honneurs qu'on lui refusait à Tarquinie, où sa famille était également étrangère. Démarate, son père, obligé de fuir Corinthe, sa patrie, à la suite de troubles civils, s'était, par hasard, retiré à Tarquinie. Là, il s'était marié et avait eu deux enfants, Lucumon et Arens. Lucumon survécut à son père, dont il recueillit seul l'héritage. Arens était mort auparavant, laissant sa femme enceinte. Démarate, qui l'avait suivi de près, ignorant la grossesse de sa bru, ne fit aucune mention de son petit-fils dans son testament. De sorte que l'enfant étant né postérieurement à la mort de son aïeul, n'eut aucune part dans la succession et fut laissé dans un état de misère qui lui fit donner le nom d'Egérius. Héritier au contraire des richesses paternelles, Lucumon en conçut un orgueil que sa femme Tanaquil s'attacha encore à développer. Fille d'une haute naissance, Tanaquil n'était nullement disposée à descendre en acceptant une alliance qui l'eût fait déchoir. Le mépris des Étrusques pour Lucumon, ce fils d'un étranger, d'un proscrit, était un affront qu'elle ne pouvait souffrir. Et plus sensible à l'élévation de son mari qu'à l'amour de sa patrie, elle résolut de quitter Tarquinie. Le séjour de Rome parut lui convenir davantage. Elle espérait que chez un peuple nouveau, où la noblesse datait d'un jour et n'était que le fruit du mérite personnel, un homme courageux et entreprenant comme Lucumon trouverait bientôt sa place. Tatius et Numa, tous deux étrangers, avaient régné dans Rome. On était même allé à Cure offrir cet honneur à Numa. Ancus était fils d'une Sabine et n'avait pour titre de noblesse que l'illustration de ce même Numa. Elle n'eut donc pas de peine à persuader l'ambitieux Lucumon, fort peu attaché d'ailleurs à sa patrie, à laquelle il ne tenait que par sa mère. Ils se rendent donc à Rome, avec leur fortune. Comme ils approchaient du Janicule, Lucumon sur son char et Tanaquil à côté de lui, un aigle, s'abattant avec lenteur, enlève le bonnet qui couvre la tête de Lucumon. Puis, reprenant son vol et planant avec de grands cris au-dessus du char, il s'abat de nouveau, et comme s'il eût été chargé de ce soin par les dieux, vient replacer le bonnet sur la tête de l'étranger. Il se perd ensuite dans les nues. Tanaquil, savante, comme tous les Étrusques, dans l'art d'expliquer les prodiges célestes, reçut, dit-on, ce présage avec transport. Elle embrasse son époux. Elle veut qu'il s'abandonne aux plus magnifiques espérances, qu'il considère l'espèce de l'oiseau, la région du ciel d'où il est descendu, le dieu dont il est le messager. Elle ajoute que le prodige s'est accompli sur la partie du corps la plus haute, que l'ornement dont les hommes couvrent leur tête n'a été enlevé un instant de la sienne que pour y être replacé ensuite par la volonté des dieux. Tout rempli de ses pensées, ils entrent à Rome et y achètent une maison. Lucumon prit le nom de Lucius Tarquinius Priscus. Sa qualité d'étranger et ses richesses le firent bientôt distinguer des Romains. Lui-même aidait la fortune et se concilia la faveur par son affabilité, par une hospitalité généreuse et par les bienfaits avec lesquels il cherchait à s'attacher tout le monde. Enfin, son nom parvint jusqu'au roi. Une fois connu du prince, il ne tarda pas à gagner son amitié par ses manières libérales et son habileté à remplir les charges qui lui furent confiées. Il était de tous les conseils publics et privés, et consulté sur la guerre et sur la paix. Après l'avoir éprouvé en toutes choses, le roi finit par le nommer dans son testament tuteur de ses enfants. Tite Live, Histoire romaine, livre 1, Sixième partie, Tarquin l'Ancien, 616 à 575 avant Jésus-Christ. Tarquin l'Ancien se fait élire roi, première réalisation. Ancus avait régné 24 ans, aussi grand qu'aucun autre de ses prédécesseurs, dans la paix comme dans la guerre. Déjà ses fils touchaient à la puberté, et Tarquin insistait d'autant plus vivement sur la nécessité d'élire un nouveau roi. Quand les comices furent convoqués, il avait su d'avance éloigner les jeunes princes sous le prétexte d'une partie de chasse. Il fut le premier, dit-on, qui osa briguer ouvertement la royauté et haranguer le peuple pour capter ses suffrages. Sa demande n'était pas sans exemple, disait-il. Et il n'était pas le premier, ce qui d'ailleurs eût pu surprendre et indigner tout le monde, mais le troisième étranger qui prétendait à la couronne. Tatius n'était pas seulement étranger, il était ennemi, et pourtant on l'est le roi. Numa ne connaissait Rome que de nom, et cependant il avait été appelé à y régner sans qu'il eût la pensée de le demander. Pour lui, dès qu'il avait pu disposer de sa volonté, il était venu à Rome avec sa femme et toute sa fortune, et depuis qu'il était arrivé à cet âge où l'homme peut rendre à un état des services utiles, il avait plus vécu à Rome que dans son ancienne patrie. Dans la paix et dans la guerre, il s'était formé sur les leçons d'un assez grand maître, Ancus lui-même. C'est à lui qu'il devait la connaissance des lois et du culte de Rome. Il avait rivalisé avec tous les citoyens d'attachement et de respect envers le roi, et avec le roi, de bonté envers tous les citoyens. Comme il ne disait rien qui ne fût vrai, le peuple, d'un consentement unanime, lui déféra la royauté. Cet homme, si remarquable d'ailleurs, porta sur le trône le même génie ambitieux qui lui en avait ouvert le chemin. Aussi attentif à affermir son autorité qu'à étendre les bornes de son royaume, il nomma 100 nouveaux sénateurs, désignés depuis sous le nom de pairs du second rang. Il se créait ainsi ostensiblement un parti, qu'il enchaînait à lui par des honneurs. Sa première guerre fut contre les Latins. Il prit d'assaut la ville d'Apiole et rapporta de cette expédition des richesses plus considérables qu'il n'en pouvait attendre d'une conquête de si peu d'importance. Il les employa à célébrer des jeux avec plus de pompe et de magnificence que les rois ses prédécesseurs. Ce fut alors qu'il traça l'enceinte appelée aujourd'hui le Grand Cirque. Il destina des places particulières aux sénateurs et aux chevaliers, et chacun d'eux y fit construire des loges, soutenues sur des échafauds de 12 pieds de hauteur et qu'on nomma Forti. Les jeux étaient des courses de chevaux et des combats d'athlètes dont les acteurs étaient tirés la plupart de l'Étrurie. Ils devinrent annuels, on les appela tantôt les grands jeux, tantôt les jeux romains. Tarquin fit encore distribuer à des particuliers le terrain qui environne le forum afin qu'ils y élevassent des portiques et des boutiques. Il se préparait aussi à entourer la ville d'une muraille de pierre lorsque la guerre des Sabins vint traverser son projet. Leur attaque fut si subite qu'ils avaient déjà franchi l'Agneau avant qu'il fût possible à l'armée romaine d'aller à leur rencontre et de les arrêter. La terreur avait gagné Rome. À la première bataille, le carnage fut grand de part et d'autre et la victoire indécise. Mais les ennemis s'étant retirés dans leur camp, laissèrent aux Romains le temps de lever de nouvelles troupes. L'épisode d'Attus Navius. Tarquin vit que la faiblesse de son armée venait de l'insuffisance de sa cavalerie. Il résolut d'ajouter de nouvelles centuries aux 3 déjà formées par Romulus, les Ramnes, les Titienses et les Luceres, et de les honorer de son nom. Comme Romulus avait consulté les augures avant d'organiser cette milice, Attus Navius, le plus célèbre d'alors, prétendit qu'on n'y pouvait rien changer ni rien ajouter sans obtenir l'autorisation des auspices. Le roi fut blessé de la liberté du pontife. on rapporte que se raillant de sa science, il dit « Orsa devin, consulte tes pronostics, et dis-moi si ce que je pense maintenant est faisable ?» Le devin interroge l'augure et répond affirmativement. « Eh bien, ajoute le roi, je pensais que tu couperais cette pierre avec un rasoir. Prends-la donc, et fais ce que ces oiseaux ont déclaré possible. » Alors, sans hésiter, Navus, dit-on, trancha la pierre. La statue de Cetatus représentait la tête voilée, se voyait sur le comitium, à l'endroit où ce fait eut lieu, et sur les degrés à gauche de la salle du Sénat. On ajoute que la pierre y fut aussi placée pour consacrer à perpétuité le souvenir de ce prodige. Ce qu'il y a de certain, c'est que dès ce moment, les augures acquirent tant de crédit et leurs sacerdoces tant de considération, que dans la suite, on n'osa plus rien entreprendre ni dans la guerre ni dans la paix sans les avoir préalablement consultés. Les assemblées du peuple, les levées de troupes, les délibérations plus graves étaient interrompues et ajournées si les oiseaux ne les approuvaient. Tarquin ne fit alors d'autres changements aux compagnies de centuries de cavaliers que d'en doubler le nombre, en sorte que 300 formaient un corps de 1800 hommes. Pour désigner les derniers incorporés, on ajouta le mot nouveau à l'ancienne dénomination, mais aujourd'hui qu'on les a doublés, on les appelle les 600. Seconde guerre contre les Sabins, la formule de la Deditio. Cette arme ainsi augmentée, Tarquin livre une seconde bataille aux Sabins. Cédant encore de la ruse malgré ce développement de forces nouvelles, il fit mettre le feu à une quantité de bois amassé sur les bords de l'Agneau et qu'on jeta tout enflammé dans le fleuve. Le vent favorise l'incendie et ces bois, la plupart réunis en radeaux, viennent s'attacher au pilotis du pont et l'embrasent. Ce spectacle épouvante les Sabins pendant qu'ils combattent et devient un obstacle à leur retraite lorsqu'ils sont mis en déroute. Un grand nombre échappés au fer des Romains périt dans le fleuve, et leurs armes, emportées par le Tibre jusqu'à Rome, y annoncent l'éclatante victoire de Tarquin avant l'arrivée du messager qui en apportait la nouvelle. La cavalerie eut presque tout l'honneur de cette journée. Placée aux deux ailes et voyant le centre de l'infanterie romaine lâcher pied, elle fondit avec tant d'impétuosité sur le flanc des légions sabines que non seulement elle les arrêta dans l'ardeur de leur poursuite, mais qu'elle les força bientôt à fuir. Les fuyards coururent vers les montagnes, mais peu y trouvèrent un abri, le reste fut, comme nous l'avons dit, culbuté dans le fleuve par la cavalerie. Tarquin, persuadé qu'il fallait profiter de la terreur des vaincus, envoya le butin et les prisonniers à Rome. Puis, pour accomplir un vœu fait à Vulcain, il mit le feu aux dépouilles ennemies entassées et entra sur le territoire des Sabins. Ceux-ci, malgré leur défaite et leur peu d'espoir pour l'avenir, n'ayant pas d'ailleurs le temps de délibérer, vinrent au-devant des Romains avec des troupes levées sans ordre et à la hâte, une seconde défaite, anéantissant presque toutes leurs ressources, les obligea à demander la paix. Ils perdirent Collacie et tout son territoire. Le gouvernement en fut donné à Egerius, neveu de Tarquin. Voici comment les habitants se rendirent, et la formule dont on usa en cette circonstance. Le roi, s'adressant aux députés, leur demanda « Êtes-vous les députés et les orateurs envoyés par le peuple collatin pour vous mettre, vous et le peuple de Collacie, en ma puissance ?»«
Oui. » »«
Le peuple collatin est-il libre de disposer de lui ?»«
Oui. » »«
Vous soumettez-vous à moi et au peuple romain, vous, le peuple de Collacie, la ville, la campagne, les eaux, les frontières, les temples, les propriétés mobilières, enfin toutes les choses divines et humaines ?»«
Oui. »
« Eh bien, j'accepte en mon nom et au nom du peuple romain. » Autre réalisation. La guerre des Sabins terminée, Tarquin rentra triomphant dans Rome. Il tourna ensuite ses armes contre les anciens Latins. Il n'en vint jamais avec eux à une action décisive, mais en attaquant séparément toutes les villes de leur pays, il subjugua tous ceux qui portaient le nom de Latin. Il prit Corniculum, fit couler à la vieille, Cameri, Crustumeri, Ameriola, Medulia, Nomentum, villes qui avaient de tout temps appartenu ou qui s'étaient données aux Latins. La paix conclue, il commença dans l'intérieur de la ville des travaux considérables, et y déploya plus d'activité encore qu'il n'en avait montré dans les guerres qu'il venait de soutenir. Le peuple rentré dans ses foyers n'y eut pas plus de repos que dans les camps. Tarquin fit en effet continuer le mur de pierre de taille dont la guerre des Sabins avait interrompu la construction. Il fortifia la ville dans toute la partie encore ouverte. Comme les eaux s'écoulaient difficilement des quartiers bas de la ville, autour du forum et des vallées qui sont entre les collines, il les assécha au moyen d'égouts qui les reçurent de ses différents points. Et les conduisirent, ainsi que celles des hauteurs de la ville, jusqu'au Tibre. Il traça ensuite l'enceinte du temple, que, pendant la guerre des Sabins, il avait voué à Jupiter Capitolin, et dont les fondations présagèrent dès lors la majesté future. Les origines de Servius Tullius. Vers ce temps-là, un prodige, aussi extraordinaire par lui-même que par les événements qui lui suivirent, se manifesta dans le palais. Une flamme embrasa, dit-on, la chevelure d'un enfant endormi, nommé Servius Tullius. Un pareil miracle excita de tous côtés dans le palais des cris qui attirèrent le roi et sa famille. Comme un des serviteurs s'empressait d'apporter de l'eau pour éteindre la flamme, la reine le retint, et faisant cesser le tumulte, défendit de toucher à cet enfant jusqu'à ce qu'il s'éveillât de lui-même. Mais bientôt, la flamme s'évanouit avec le sommeil de l'enfant. Alors Tanaquil, ramenant son mari dans l'intérieur du palais, « Vois-tu, lui dit-elle, cet enfant que nous élevons dans une condition si humble, sache qu'il sera la lumière, qui doit ranimer un jour nos espérances prêtes à s'éteindre et soutenir notre trône ébranlé. Entourons donc de tous nos soins et de toute notre tendresse ce gage d'une gloire immense pour Rome et pour nous. » Depuis ce moment, ils traitèrent Servius comme s'il eût été leur fils, et lui firent apprendre tout ce qui excite les esprits et leur donne l'ambition d'une haute fortune. Les desseins des dieux ne pouvaient manquer de s'accomplir. Les qualités d'un roi se développèrent chez cet enfant avec la jeunesse. Et lorsque Tarquin chercha un gendre, personne parmi les jeunes Romains ne méritant d'être comparé à Tullius, c'est à lui qu'il donna sa fille. Cet honneur insigne, quelle qu'en fût la cause, ne permet pas de croire que Servius Tullius fût né d'une esclave et qu'il l'eût été lui-même dans son enfance. J'accepte plus volontiers l'opinion suivante. On prétend qu'à la prise de Corniculum, Servius Tullius, chef de cet état, périt, laissant sa veuve enceinte. Que reconnut parmi les autres captives cette femme, par la seule considération de sa naissance, obtint de la reine d'être rendue à la liberté, et fut logée à Rome dans le palais de Tarquin l'Ancien. Que là, elle accoucha de Servius, et que sa reconnaissance pour une hospitalité généreuse établit entre les deux femmes une étroite intimité, que l'enfant, né et élevé dans le palais, y fut l'objet de la tendresse et des égards respectueux de tous, et qu'enfin le sort de sa mère, tombé au pouvoir de l'ennemi après la conquête de sa patrie, avait fait croire qu'il était fils d'une esclave. L'assassinat de Tarquin l'Ancien. Tarquin avait presque atteint la 38e année de son règne, et Servius Tullius jouissait de la plus haute considération non seulement auprès du roi, mais aussi parmi les sénateurs et le peuple. Mais les deux fils d'Ancus, toujours indignés de la perfidie de leur tuteur qui les avait chassés du trône paternel, et de la domination d'un roi qui, loin d'être citoyen de Rome, n'était pas même d'origine italienne, sentir plus vivement cet affront, lorsqu'ils prévirent que le sceptre non seulement leur échapperait encore après Tarquin, mais tomberait déshonoré aux mains d'un esclave. Qu'ainsi cette ville où un siècle auparavant Romulus, fils d'un dieu et dieu lui-même, avait régné tout le temps de son séjour sur terre, allait obéir après lui au fils d'une esclave destinée lui-même à l'esclavage. Ils considéraient la honte du nom romain, celle de leur propre maison, surtout si, du vivant des fils d'Ancus, on laissait le trône à des étrangers, à des esclaves. Le faire seul pouvait empêcher cette injure. Mais leur ressentiment les animait plus contre Tarquin que contre Servius. Le roi, s'il survivait à son gendre, tirerait de cet assassinat une vengeance plus terrible que ne ferait un simple particulier. Outre qu'après la mort de Servius, il ne manquerait pas d'assurer la possession du trône au nouveau gendre qu'il lui plairait de choisir. C'est donc contre le roi lui-même qu'ils méditent de diriger leur coup. Ils choisissent pour l'exécution du complot deux pâtres déterminés. Ces hommes, munis de leur équipement de pâtres, pénètrent dans le vestibule du palais et y engagent avec le plus de bruit possible une querelle simulée qui attire sur eux toute l'attention des gardes. Comme ils imploraient tous deux la justice du prince et que leur voix retentissant dans le palais arrivait jusqu'aux oreilles de Tarquin, celui-ci les fait venir en sa présence. D'abord ils parlent tous deux à la fois, sans que l'un veuille donner à l'autre le temps de s'expliquer. Mais le litteur, leur imposant silence, leur ordonne de parler chacun à son tour. Ils cessent alors de s'interrompre, et l'un d'eux commence à exposer le fait de la façon convenue, pendant que le roi, tourné vers cet homme, est tout entier à son récit. L'assassin lève sa hache, lui en décharge un coup sur la tête, et, laissant le fer dans la blessure, s'échappe avec son complice.